Alléluia.
Seigneur est là et il veut encore nous parler, nous instruire et nous aider à grandir dans la foi et dans la sagesse de Dieu. J'aimerais apporter un dernier message que nous allons découvrir dans l'épître, dans les deux épîtres de Paul à Timothée, et relever certaines pensées importantes concernant la foi, mais concernant la foi en ce qui concerne les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et vous allez le remarquer, l'apôtre Paul exhorte Timothée en lui disant que concernant la foi, dans les vérités essentielles, dans les derniers temps et même de son temps, il y aura des bouleversements à ce sujet-là. Rien n'est acquis comme cela. Il y aura des changements, des bouleversements concernant cette foi. D'ailleurs, il commence son épître dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 3. Il dit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Vous le remarquez ? La première des choses que Paul mentionne à Timothée, c'est cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a là un besoin urgent, il y a un piège constant de s'éloigner de cette vérité de la parole de Dieu et des vérités fondamentales. Parce que des personnes enseignent d'autres doctrines. Et le travail de Timothée à Éphèse était de dire hey, « Stop ! Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. La parole de Dieu nous révèle ce que nous devons croire. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette parole. Vous ne pouvez pas venir avec de nouvelles révélations. Vous ne pouvez pas interpréter la parole comme vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre des textes hors de leur contexte pour en faire un prétexte. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » C'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Et vous allez le voir, j'ai pris 7 passages où il parle de l'attitude de certains à l'égard de la foi. Par exemple, le premier passage que nous allons lire, c'est au verset 6, juste un peu plus loin de ce que je vous ai lu. « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses. » Donc ici, ils se sont détournés de la foi. Voyez-vous ? Quelques-uns se sont détournés de ces choses, donc de la foi, et se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors le titre de mon message est « 7 dangereuses déviations de la foi » à éviter. 7, parce que je vais vous donner 7 passages, 7 dangereuses déviations. Alors la première déviation dangereuse, c'est se détourner de la foi. L'apôtre en parle. La foi sincère, de cette foi sincère dans la parole de Dieu, on peut s'en détourner. Et quel était le problème là ? C'est que si vous lisez le contexte, il y avait des gens qui commençaient à mélanger la loi et la grâce. Ce sont des gens qui, dans l'Église, disaient « Bon, ben, la grâce, c'est bien. On est sauvé par grâce, mais il faut revenir sous la loi et il faut quand même pratiquer la loi. » Voyez-vous, il y avait le mélange entre le judaïsme et le christianisme. Autrement dit, on revenait au salut par les œuvres. Voyez-vous le piège ? Alors, si on revient au salut par les œuvres, on se détourne de la foi. Et le mot détourné ici veut dire errer loin de, dévier, faire un écart, manquer le but ou ne pas saisir l'idée. Ils n'ont pas saisi l'idée de ce qu'est la vraie grâce. Et c'est pourquoi on fait un mélange de la grâce et de la loi, ou si vous voulez, aujourd'hui, dans un langage plus clair, entre la grâce et les œuvres. Et aujourd'hui encore, combien d'églises prêchent le salut par les œuvres ? On dit bien que c'est par la grâce, mais les œuvres sont impératives. Si vous ne pratiquez pas d'œuvres, vous ne pouvez être sauvé. Voyez-vous ? On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres. Voilà la grande différence. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. C'est là la différence. Un vrai chrétien ne doit pas se détourner de la foi et commencer par la foi et finir par les œuvres. C'est ce que Paul disait aux Galates. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Après avoir commencé par la foi, vous finissez par les œuvres. Alors, il faut faire très attention. Nous devons faire des œuvres, c'est vrai, mais ces œuvres ne sont pas là pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, 8, vous connaissez ce passage. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors aujourd'hui, il y a tant, dans certains milieux chrétiens, on en vient à ce mélange de la grâce et de la loi et des œuvres. Et même dans certains milieux charismatiques, où l'on revient à la loi, où on doit pratiquer la loi pour être agréable à Dieu, dans des milieux même charismatiques, pas seulement dans les milieux traditionnels. Donc, ce piège est là, au milieu de nous. Beaucoup n'ont pas encore fait la différence entre la grâce et la loi. La loi, elle a été donnée, non pas pour que nous puissions la mettre en pratique, parce qu'on en était incapable. Elle a été donnée pour nous révéler notre péché et nous conduire à la grâce pour être pardonnés de nos péchés. Et recevoir le pardon de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Car c'est par grâce. Donc la grâce veut dire un salut, un don immérité. Et non seulement immérité, mais que nous ne mériterons jamais. C'est cela la grâce. Et Paul voulait dire, attention, il y a au milieu de vous des judaïsants, des gens qui commencent à dire, oui c'est bien la grâce. C'est bien, mais il faut revenir, il faut pratiquer la loi. Si vous n'êtes pas ceci et cela, vous serez perdus, vous ne pouvez pas être sauvés. Mes amis, ce danger est encore là aujourd'hui. Des multitudes encore enseignent cela, et même dans certains milieux charismatiques, il y a la tendance à revenir à la loi. Et même certains vont jusqu'à dire que si vous ne pratiquez pas la loi, mais le jour où ils viendront au pouvoir, parce que c'est comme un parti politique, les reconstructionnistes, ceux qui prêchent le royaume de Dieu maintenant, prêchent la loi. Et ils disent qu'un jour où ils viendront au pouvoir, tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à la loi devront être exécutés. Ce sont des choses qui se vendent dans nos librairies chrétiennes. Parmi les reconstructionnistes, des mouvements qui viennent d'Amérique, le royaume de Dieu maintenant. Tous ceux qui prêchent que l'Église doit prendre le pouvoir. Et de telles expressions, par exemple, nous devons changer le monde. N'avez-vous pas entendu d'expressions comme ça dans la bouche de certains serviteurs de Dieu? Nous sommes là pour changer le monde. Comment changer le monde? Nous savons très bien que le monde ne sera pas changé. Que quelques-uns seront sauvés, oui. Mais changer le monde, c'est une illusion. C'est un mensonge. Mais derrière cela, il y a une philosophie, Il y a une doctrine qui est que l'Église doit prendre les rênes du monde. L'Église doit dominer le monde. Et ceux qui n'accepteront pas cela, les chrétiens qui n'accepteront pas cela, un jour, lorsque ces chrétiens, entre guillemets, viendront au pouvoir, eh bien, ils s'occuperont de ces chrétiens qui veulent rester sous la grâce. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura de grandes persécutions. Mes amis, nous ne devons pas nous détourner de la foi. Le message chrétien n'est pas un parti politique. Vous êtes d'accord avec moi ? Le Seigneur est là pour changer les vies. Le Seigneur est là pour transformer les cœurs et non pas changer les nations. C'est seulement le Seigneur qui pourra établir cela pour le millénium. Amen. Mais eux, ils croient que c'est eux qui vont établir le royaume de Dieu. Et quand ils l'auront établi, ce royaume de Dieu, en prenant les postes d'autorité, de gouvernement et tout cela, et tous ceux qui s'opposeront à eux seront exécutés. Vous dites, c'est pas possible. Mais ça existe. Mais mes amis, c'est écrit. Et parmi les charismatiques, ces choses-là sont écrites dans leurs livres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est écrit. Si vous compulsez leurs livres, c'est là. Alors on ne fait pas attention. On dit, oh, c'est merveilleux, changer le monde. Ah, et puis on voit des grands rassemblements, comme je disais. Des foules qui se rassemblent. On dit, mais c'est ça, c'est formidable, c'est le réveil. Mais on ne cherche pas derrière ce qu'il y a. On ne vérifie pas leur enseignement. Et un des plus grands dangers est celui-ci, le mélange de la loi et de la grâce. Et plusieurs se sont détournés, ont erré loin de cette vérité. On manque, n'ont pas saisi l'idée. L'idée, c'est que c'est par grâce qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est un don de Dieu, que Dieu offre gratuitement. S'il l'offre gratuitement, cela ne veut pas dire qu'il est bon marché. Il y en a beaucoup qui ont confondu entre gratuité et bon marché. Dieu offre le salut gratuitement, cela ne veut pas dire qu'il est bon marché. Il est gratuit pour nous, mais il n'avait pas été gratuit pour le Seigneur. Il a dû donner sa vie. Il n'a pas été bon marché pour le Seigneur. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous devons réaliser ces choses. Et que si Dieu nous accorde ce salut par grâce, c'est parce que nous ne pouvons jamais payer notre dette et que nous ne pourrons jamais le faire. C'est pourquoi il l'offre gracieusement à ceux qui se repentent et abandonnent leurs péchés pour recevoir ce pardon comme un cadeau de Dieu et pour vivre désormais une vie nouvelle et pratiquer de bonnes œuvres. Non pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont déjà sauvés et pour glorifier Dieu dans leur vie et être une lumière dans là où ils sont. Amen. Alors attention, premier piège, se détourner de la foi. Et le contexte, c'est justement se détourner de la foi pour commencer à pratiquer la loi, le salut par les œuvres. Tout ça. Il y a les judaïsants, mais il y a des judaïsants encore aujourd'hui. Il y en a qui vous disent, si vous ne vous occupez pas d'Israël, vous êtes presque perdu. Si vous n'allez pas une fois en Israël et autres, vous êtes presque perdu. Israël a sa place dans le plan de Dieu. Amen. Mais mes amis, attention. Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Nous aimons Israël. J'aime Israël. Tout chrétien authentique doit aimer Israël. Mais nous devons réaliser que nous ne devons pas tomber sous la loi. Dieu a un plan pour Israël, mais en attendant, nous sommes dans la dispensation de l'Église et nous devons rester sur le terrain de la grâce. Sinon, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Amen. Et ce n'est pas en pratiquant la loi ou en pratiquant certaines traditions religieuses, même israéliennes, juives, qu'on peut plaire à Dieu. Certains chrétiens même peuvent penser cela. Ah, on pratique certaines choses, oui, par sympathie. Mes amis, ce n'est pas cela qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Il faut bien faire attention. Et Israël, comme tout le monde, a besoin de la grâce de Dieu. C'est cette grâce de Dieu qui ouvre la porte du ciel et touche le cœur de Dieu. Amen. Et le meilleur service que nous puissions rendre à Israël, c'est de leur justement prêcher le Messie, le Sauveur, qui sauve par grâce. Et non pas essayer de revenir sous une loi pour être soi-disant agréable à Dieu. Ça, c'est un piège. Et nous devons veiller à cela. Amen. Alors, il faut bien saisir l'idée, bien ne pas s'écarter de ces choses, car c'est vite fait. N'est-ce pas vrai? Souvent, c'est par sympathie. Ah, on est amis avec quelqu'un qui aime ces choses. On est amis, on ne veut pas faire de la peine. Mais petit à petit, on commence à se rendre compte, on commence à pratiquer les choses d'Israël, les choses de la loi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne s'en rend pas compte. Et d'un seul coup, on est là. On pense qu'en faisant certaines choses, pratiques religieuses, on est en train de plaire à Dieu. Mais c'est le contraire. Il n'y a que l'œuvre de Jésus-Christ qui plaît à Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. Un deuxième piège, c'est au verset 19. Verset 19, nous allons lire le verset 18, toujours dans le premier chapitre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et écoutez, qu'est-ce qu'il est dit après? Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors regardez ici, un deuxième piège. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors un deuxième piège, c'est faire naufrage par rapport à la foi. Naufrage veut dire destruction, ruine. Et pourquoi ils font naufrage par rapport à la foi? Voyez-vous, il y a un piège ici. Vous pouvez faire naufrage par rapport à la foi. Vous pouvez vous détourner de la foi. Et ici, il y a un naufrage. Pourquoi? Vous l'avez remarqué? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage. Pourquoi ils font naufrage? Parce qu'ils ont perdu leur bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Écoutez-moi bien, ici il y a une pensée importante. Qu'est-ce que la bonne conscience ici? C'est justement commencer, une mauvaise conscience, c'est commencer à faire des choses ou à dire des choses qui sont en contradiction avec ce que nous croyons. Vous voyez, nous pouvons croire à la saine doctrine, mais nous pouvons commencer à pratiquer et à faire des choses qui ne sont pas en accord avec cette saine doctrine. Alors nous commençons à avoir une mauvaise conscience. Quand vous commencez à ne pas vivre ce que vous croyez, vous avez une mauvaise conscience. Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conscience parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils croient. Ils ont dans leur vie des choses qui déshonorent Dieu. Ils caressent certaines choses. Ils pratiquent certaines choses mauvaises et impures. Ils croient en la saine doctrine, mais il y a cette mauvaise conscience. Leur vie n'est pas en accord avec ce qu'ils croient. Et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience est là qui nous fait faire des choses qui, tôt ou tard, nous éloignent de la foi. Nous éloignent et on commence à faire naufrage par rapport à la foi. Nous détruisons notre foi si nous ne vivons pas ce que nous croyons. Amen. Et cela peut arriver à tout le monde. De ce nombre sont Hyménée, il est dit ici, et Alexandre. Hyménée, si vous lisez un peu plus loin, C'était quelqu'un qui commençait à dire que la résurrection est déjà arrivée. Donc, c'était des gens qui spiritualisaient les vérités des Écritures. Ils spiritualisaient la résurrection. Oui, on est ressuscité, mais spirituellement. Ce n'est pas le corps qui un jour va ressusciter. Voyez-vous ? Quand on commence un peu à spiritualiser les Écritures, quand on commence à prendre des textes hors de leur contexte, on commence à faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Et savez-vous, ceux qui ont de mauvaise conscience, finalement, où ils en arrivent ? Ils en arrivent même à justifier leurs péchés. Ils vont même vous trouver des passages dans la Bible pour justifier leurs péchés. Juste prendre un exemple qui me vient maintenant. Les homosexuels, vous savez comment ils font pour justifier leur Bible, justifier leur croyance ? Ils vous disent, mais l'histoire de David et Jonathan, c'est là tout à fait quelque chose dans ce domaine-là. Vous voyez ? Nous savons que ce n'est pas ça. Mais regardez comment tord les Écritures. Ils ont mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience les pousse, les font faire naufrage quant à la foi. Et on va trouver des textes qu'on prend hors de leur contexte pour se justifier. Alors attention, beaucoup peuvent faire naufrage à la foi à cause d'une mauvaise conscience. Ils n'ont pas réglé certaines choses dans leur vie. Et non seulement ils n'ont pas réglé ces choses, et encore ils vous disent, mais c'est écrit dans la Bible. Regardez jusqu'où. On pousse la chose jusqu'où le toupet peut aller. Il y a même un serviteur de Dieu une fois qui a dit, lui qui s'amusait un peu trop avec les femmes, il a mis David avec plusieurs femmes. Regardez où on va. Regardez où on va. C'est pour ça qu'il avait une deuxième femme, serviteur de Dieu. Et il était là. Et il n'avait pas même pas à rougir. Voyez-vous, il avait une mauvaise conscience. Mais il essaie de justifier cette mauvaise conscience en tordant les Écritures. Mais en faisant cela, il le faisait un grand péril, en perdant sa foi. Car il ne faut pas qu'il pense que s'il a deux femmes, il se croit encore sauvé. C'est impossible. Les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu as beau te dire pasteur, évangéliste, prophète, docteur, ou je ne sais qui, ancien, ou je ne sais qui, tu n'es pas un chrétien. Naufrage quant à la foi, à cause d'une mauvaise conscience. On ne vit pas ce qu'on croit. N'est-ce pas un piège ? De ce nombre, il a nommé. Bon, allons plus loin maintenant. Troisième piège maintenant. Voyez-vous que la foi, Paul lui dit, combat, le bon combat de la foi. Il y a un combat pour maintenir, pour se maintenir dans la foi, pour garder la foi, pour communiquer la foi. C'est un combat. Si vous ne le combattez pas, vous risquez de tout perdre. La pression est tellement forte, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Troisième piège, 1 Timothée 4.1, vous allez voir qu'il a encore parlé de la foi là, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors revenons ici au troisième piège, mais l'Esprit dit expressément, donc c'est le Saint-Esprit qui parle. Qu'est-ce qu'il dit ? Que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Troisième piège, et le mot abandonner ici, dans le texte grec, veut dire apostasier. Certains apostasieront quant à la foi. On pourrait aussi traduire déserteront la foi, se révolteront contre la foi, se détourneront de la foi. pourquoi dans les derniers temps, il est parlé d'apostasie. Et quelqu'un qui apostasie la foi, c'est quelqu'un qui avait la foi, qui l'abandonne. Un incrédule ne peut pas apostasier sa foi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est illogique. On apostasie de quelque chose auquel on croit. Mais on peut l'abandonner. On peut déserter. On peut se révolter. Et nous vivons cette période-là. Car dans les derniers temps, l'apôtre dit encore, les uns ne supporteront plus la saine doctrine. Donc ici, il est question d'apostasie de la foi. Et une des apostasies est celle-ci, c'est que même dans nos milieux, on dit qu'on croit en la parole de Dieu, que la parole de Dieu, c'est la vérité, mais qu'elle n'est pas l'autorité finale. On peut venir avec de nouvelles révélations, parce qu'il y a de nouveaux prophètes maintenant, de nouveaux apôtres, qui viennent avec leurs révélations, et qui disent, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, eux ont des révélations qu'ils mettent au même niveau que les Écritures. Ça, c'est l'apostasie. La parole de Dieu est l'autorité suprême. Amen. Nous ne devons rien ajouter et nous ne devons rien retrancher. Mais voyez-vous, le piège, c'est qu'on dit qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, mais qu'on se permet d'ajouter certaines choses qui ne sont pas dans les Écritures, que les apôtres et le Seigneur n'ont pas prêché et pratiqué. Et nous vivons cette période-là, maintenant. Amen. Il y a des enseignements et des expériences qui sont prêchés et pratiqués dans beaucoup d'églises aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Paul et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est quoi? C'est l'apostasie. Ce que certains pasteurs appellent réveil aujourd'hui dans certaines églises, la Bible l'appelle apostasie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce que certains appellent réveil, Dieu l'appelle apostasie. Le Saint-Esprit l'appelle apostasie. Parce que c'est l'Esprit qui dit expressément. C'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit, voilà, certains se révolteront, vont abandonner les vérités fondamentales. Et une des vérités, c'est celle-ci. Nous savons d'où cela vient. La tentation est venue déjà dès le début, dans le jardin d'Aden. Qui a dit un jour, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, on met le doute sur la parole de Dieu. Comme si elle n'était pas suffisante. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, Dieu, on croit à la parole de Dieu. Mais elle n'est pas l'autorité finale. Il y a de nouvelles révélations. Il y a de nouveaux apôtres, de nouveaux prophètes. Mes amis, vous êtes au courant de ces choses. Nous vivons ces temps-là. Et il y en a beaucoup qui commencent à apostasier de la foi. Cela existe, vous devez faire attention, je dois faire attention. Amen. Et là encore, ce n'est pas la voix de la majorité qui est la voix de la vérité. Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau. Vous savez, ce n'est pas la majorité qui suit en général la vérité. C'est bien souvent la minorité. Alors, fais bien attention de ne pas te joindre à la multitude, pensant que la multitude est synonyme de vérité. Quelques-uns apostasieront. Est-ce que tu crois vraiment que la Bible est la seule parole de Dieu et l'autorité finale? Si c'est l'autorité finale, tu dois tout contrôler. Comme les Béréens, tu dois examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Et même si c'est un apôtre, les Béréens contrôlaient Paul qui était un apôtre. Certains apôtres disent aujourd'hui, entre guillemets, attention, je suis apôtre, vous n'avez pas le droit de me contrôler. Et si vous êtes contrôlé, on commence à vous menacer. Si tu n'obéis pas aux serviteurs de Dieu, le jugement de Dieu viendra sur toi, sur ta femme et sur tes enfants. Tu as intérêt à te soumettre, car c'est comme ça que ça marche avec eux. C'est comme ça que ça marche. C'est par des menaces, par des jugements. Mes amis, Dieu ne fait pas des choses pareilles. Dieu t'a donné un dépôt. tu dois le garder. Il y a un combat. Nous vivons ces temps-là. Nous vivons des temps prophétiques. Quatrième piège, 1 Timothée 5:8. Et là, il est question d'un autre piège quant à la foi. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Il a renié la foi. Ouh, 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 ouh. C'est écrit, hein? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Mes amis, là encore, nous devons vivre ce que nous croyons. Renier la foi. Le chrétien doit prendre soin de sa famille. C'est une vérité biblique. Il doit prendre soin des siens. Ça, c'est un point extrêmement important. Sinon, il n'y a que des paroles. Vous êtes d'accord avec moi? Il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que l'infidèle, lui, il prend soin. Il a encore en lui cette crainte, cette morale de respecter et de prendre soin de ses parents. Pas tous, bien sûr. Mais c'est là. Mais le chrétien, s'il ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Ça va au plus profond de notre foi, n'est-ce pas vrai? C'est par là que nous voyons si nous sommes d'authentiques chrétiens. Et Dieu donnera toujours une solution à celui qui veut prendre soin des siens. Dieu pourra même faire des miracles s'il le faut. Dieu t'aidera. Il y a peut-être des solutions insurmontables, des questions insurmontables. Mais Dieu t'aidera. Si tu veux faire face à cette réalité, le Seigneur t'aidera. Mais s'il ne fait pas cela, il a renié sa foi. Mais c'est pas possible, j'ai pas renié ma foi. Attention, Dieu dit que tu as renié ta foi. Nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons, n'est-ce pas vrai? Il y a des choses pratiques. Le Seigneur veut que notre foi soit pratique, réelle. Que nous ne... Il ne faut pas planer. Il faut rester sur la terre. Amen. Et prendre soin des siens. Cinquième piège, 1 Timothée 6:10. 1 Timothée 6:10, un autre piège. Au verset 9, déjà, on peut lire, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine, n'est pas la racine, mais une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, ce sont... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Égarés loin de la foi. Et se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments. Un autre piège, s'égarer loin de la foi. Tu peux t'égarer loin de la foi. Et comment tu peux t'égarer loin de la foi? En ayant en toi cet amour de... Comme je le dis souvent, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pourquoi l'apôtre dit cela? J'ai noté quelques pensées. L'amour de l'argent peut te conduire à gagner l'argent d'une manière malhonnête. Donc l'amour de l'argent peut te conduire dans la malhonnêteté. Tu veux tellement gagner de l'argent que tu commences à faire des choses malhonnêtes. Une autre pensée, plus tu gagnes de l'argent, plus tu veux en gagner. Plus tu aimes l'argent, plus tu l'aimeras encore plus. Voyez-vous, on n'en finit plus. Et c'est pour cela qu'on tombe dans des pièges. On s'égare loin de la foi. Et certains se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors tu peux t'égarer loin de la foi. En ayant cet amour de l'argent. Et l'amour de l'argent fait aussi autre chose. L'amour de l'argent fait de toi un égoïste. Il n'y a rien de tel. Celui qui a l'amour de l'argent ne vit que pour lui-même. C'est un égoïste. Il tourne autour de lui-même. Et c'est pourquoi c'est l'opposé même de la foi, de l'évangile, où nous devons nous oublier nous-mêmes pour nous donner aux autres. Et la réponse à tout cela, c'est Matthieu 6, 23. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà comment Dieu peut te délivrer de ce piège. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mets Dieu en premier. Fais sa volonté. Cherche à lui plaire. Et il te donnera toutes ces choses. Il sait ce dont tu as besoin. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Voilà une vérité importante. Mais voilà un piège. S'égarer loin de la foi à cause de cet amour de l'argent qui nous rend égoïstes. Qui nous rend toujours plus désireux d'en avoir plus. Et qui nous rend malhonnêtes aussi. Car nous tombons dans des pièges. Et après, dans ces pièges, nous avons du remords. Nous sommes repris dans notre conscience. Et la foi commence à s'étouffer. Les buissons sont là, les épines, les pierres sont là, étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. S'égarer loin de la foi à cause de l'amour de l'argent. Tous nous devons veiller à cela, n'est-ce pas vrai? Sixième piège, 2 Timothée 2,18. Voyez-vous combien l'apôtre Paul était pratique dans son message, vous êtes d'accord? Concernant la foi. C'était pas quelque chose, voilà, tu as la foi, ça y est, c'est terminé, tu peux continuer, tout ira bien. Non. Il y a un combat. 2 Timothée 2,18. Qu'est-ce que vous avez ici? Et il est dit ici, au verset 17, 16 déjà, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée. Voyez où il est là, de nouveau, Hyménée. Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, le passage que je voulais montrer, c'est... Ah oui, voilà. C'est juste... Oui, 18, voilà. Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà notre piège maintenant. Renverser la foi de quelques-uns. Non seulement votre propre foi est renversée, mais maintenant vous avez une mauvaise influence sur les autres. Parce qu'il y a des âmes faibles. Il y a des faibles, nous dit la parole de Dieu. Et nous pouvons avoir une mauvaise influence sur eux. Renverser la foi, le mot veut dire renverser, saper, détruire les fondements, ébranler, miner. C'est comme si vous étiez là en train de miner les fondements de la foi de quelqu'un. Et cette foi, ce sont des vérités justement fondamentales, la résurrection, la divinité de Jésus, l'autorité suprême de la parole de Dieu, la naissance virginale de Jésus-Christ, le salut par la foi et non par les œuvres. Amen. La résurrection des morts, le jugement à venir, tout cela.
Les gens qui sont rachetés, sauvés, délivrés. Et autour de nous, c'est ce que les gens veulent voir.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'ils voient? Tout le contraire. Gandhi, c'est ce qu'il attendait. Ce ne sont pas nos beaux discours qui vont changer les choses. Ce sont nos vies transformées.
Amen.
Et la clé, c'est la repentance.
Oui, c'est ça.
C'est la repentance. Quand quelqu'un se repent vraiment, alors sa vie n'est plus la même.
C'est vrai.
C'est Luther qui disait, concernant la repentance, c'est ne plus le faire. Ne plus.
Se repentir,
c'est ne plus le faire, ne plus commettre son péché. C'est ne plus le faire. C'est-à-dire, c'est terminé. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Pas de rafistolage. On va aller un peu plus loin. Une fois qu'on s'est vraiment repenti, alors après, on peut recevoir le Christ. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez ? La repentance ici est en relation avec le pécheur qui se repent. Et maintenant, dans le fait de recevoir Christ, c'est en relation avec notre état d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, maintenant, le Sauveur, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En recevant Christ, nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Jean 3, 36. Il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Donc à partir du moment où on reçoit Christ maintenant comme son sauveur, comme celui qui a porté nos péchés, qui a subi notre condamnation, nous le recevons désormais et une vie nouvelle commence. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Par son sang, nous sommes purifiés. Et maintenant que nous avons reçu Christ, il faut faire la troisième étape. Confesser Christ. Romains 10, 10. Vous connaissez aussi ce passage. Romains 10, 10. Il est dit, « Car c'est en confessant de la bouche, en croyant du cœur, qu'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, la confession doit être publique maintenant. Il n'y a pas de vie chrétienne privée. La confession, elle est là, doit être publique. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage de confesser publiquement leur foi. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Beaucoup de chrétiens n'ont pas même l'assurance de leur salut. Pourquoi ? Parce qu'ils ne confessent pas Christ ouvertement, que Christ est leur sauveur. Et qu'il est désormais le maître de leur vie. C'est que lorsqu'on confesse cela, le Saint-Esprit en nous nous donne l'attestation que nous sommes bien ses enfants. Et il vient à notre aide. La confession est importante. Et vous savez, Jésus lui-même a dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant le monde, je le renierai devant mon Père. » Luc 19, 26. Luc 9, 26. Et Luc 12, 9. Il y a là donc une grande vérité importante. Nous ne pouvons pas garder notre foi pour nous-mêmes. Nous devons avoir le courage de confesser notre foi publiquement. Et là encore, que de chrétiens n'ont jamais confessé publiquement ou ne témoignent pas de leur foi. Ça, c'est une tragédie. Et c'est lorsqu'on confesse notre foi qu'on voit tout de suite que le Seigneur est là pour nous aider à parler de son amour, à parler de sa croix, à parler de notre vie transformée. La confession est importante. Quatrième étape, maintenant, nous devons suivre Christ. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Luc 14 aussi 26. Luc 14, 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, » écoutez bien, c'est important maintenant, « et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors ici, quand on a vu par rapport au fait de recevoir Christ, c'était pour devenir enfant de Dieu. Par rapport à la confession de Christ, c'est pour être des témoins. Et maintenant, par rapport au fait de suivre Christ, c'est pour être ses disciples. Et Jésus dit là que si nous voulons être ses disciples, nous ne devons pas avoir honte de confesser notre foi. Et même s'il fallait être rejeté par nos parents, nous devons accepter de le suivre.
Ou nos enfants.
Ou nos enfants. Et le verbe haïr ici, ça ne veut pas dire le verbe haïr dans le sens où nous l'entendons. C'est si quelqu'un ne hait, c'est-à-dire si quelqu'un place son père ou sa mère avant moi, il ne peut être mon disciple. Parce que finalement, c'est quand Jésus a la première place, c'est quand nous l'aimons vraiment de tout notre cœur que nous pouvons aimer aussi nos parents, nos frères et sœurs. Il n'y a pas tellement de contradictions. Mais ce que Jésus veut, c'est que lui ait la première place. Il ne faut pas que les membres de la famille passent en premier. Et à cause de cela, eh bien, on met Jésus de côté et notre foi n'est plus une foi vraiment courageuse.
La fidèle.
Est fidèle. Suivre Christ, nous devons le suivre même si nos parents, nos amis, nos frères et sœurs ne veulent pas du Seigneur, Nous devons être prêts à suivre le Seigneur. C'est le prix que nous devons payer pour être ses disciples. Pour devenir chrétien, il n'y a rien à payer. Mais pour devenir un disciple de Christ, il y a un prix à payer. Ne l'oublions pas. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer ce prix-là.
Beaucoup.
Et avec les membres de leur famille, ils ne veulent pas les avoir sur le dos.
Voilà.
Parce que s'ils disent certaines choses, les autres vont se fâcher, vont se vexer, vont vous rejeter. Et beaucoup n'acceptent pas cela. Mais si tu aimes le Seigneur, alors... tu ne t'occupes pas de cela. Le Seigneur s'occupera des tiens. Mais toi, tu dois prouver ton amour. Amen. Jésus doit être le premier. Amen. Tu dois le suivre. Même quand ceux de ta famille ne te suivent pas ou te rejettent. Voilà. C'est la condition, c'est là le point. Parce que beaucoup, beaucoup de chrétiens flanchent dans ce domaine-là. C'est dans ce domaine.
Oh, oui.
Parce que les parents ou la famille ou autre ne sont contre, alors ils sont perdus. Ils ne veulent pas, ils font des compromis avec les enfants, avec les parents. Ils font des compromis. Et c'est comme cela que leur vie chrétienne n'a plus aucun sens.
Et voilà.
Leur témoignage ne porte pas. C'est comme une cymbale qui retentit. Ça ne porte pas. Et on vous dit, ah bon, c'est ça ? T'as ta foi dans le Seigneur, là ? C'est ça ? Tu fais facilement des compromis ? Et tu trahis facilement ton maître ? Et les autres s'en rendent compte ? Et l'hypocrisie, ils ne l'acceptent pas ? On dit qu'on aime le Seigneur, mais à côté de ça, on craint les membres de sa famille plus que le Seigneur ? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est quand ils verront que notre foi est totale dans le Seigneur, qu'on est prêt à suivre le Seigneur coûte que coûte, même si tous nous abandonnent. C'est le meilleur témoignage qu'on puisse leur rendre.
Oui.
Parce qu'ils verront, ils diront au moins, là, ils sont entiers dans leur foi. Ils sont entiers.
Amen.
Et on respecte toujours, même si on s'oppose. Mais au fond de soi-même, on respecte quelqu'un qui est entier dans sa foi.
Dans ses convictions.
Et dans ses convictions. Tandis qu'autrement, on se moque de vous. Parce qu'il y a une double langage, une double vie, un double témoignage.
Une double attitude.
Une double attitude. Donc la quatrième étape, suivre Christ. être un disciple, quelles que soient les conditions dans la famille, parce que c'est là que ça commence, c'est dans la famille.
Oh oui.
Il faut absolument mettre le Seigneur en premier si nous voulons qu'il nous aide. Il ne faut pas cacher son drapeau à cause du mari, de la femme, des enfants, du papa, de la maman. Jamais. Jamais. Il faut que le Seigneur soit le premier. Il nous faut l'honorer dans ce domaine-là. Et le Seigneur attend cela. Quant au reste, lui, il s'en occupera. Et cinquièmement, pour terminer, suivre Christ et cinquièmement, être fidèle à Christ. Apocalypse 3:10, fidèle à Christ. Le Seigneur attend que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Apocalypse 3:10, qu'est-ce que vous avez ? Celui qui vaincra. On peut... Ah non, c'est un peu plus haut.
C'est 12.
Un peu plus haut, verset 10 déjà. Parce que tu as gardé, voilà, écoutez bien, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Ici, le Seigneur donc attend de chacun d'entre nous la fidélité à sa parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est critiquée. La parole de Dieu est galvaudé, voilà, enfin, tout cela,
déformé,
voilà. Et dans les églises, la parole de Dieu, on ne la suit plus fidèlement comme c'est écrit. On tord le sens des Écritures. Le verbe tordre, il est parlé de tordre le sens. C'est ceux qui tordent des Écritures, ils tordent un passage de telle façon que il fait dire le contraire de ce qui est écrit. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans beaucoup de prédicateurs font ça. Ils vous tordent le sens des Écritures. Ils vous font dire le contraire de ce qui est écrit. En sortant des textes hors de leur contexte. Et un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Alors il nous faut maintenant être fidèles. Si je veux moi-même aller jusqu'au bout avec le Seigneur, vous-même, les cinq étapes sont là. Il faut maintenant être fidèle à sa parole. Parce que cette parole, beaucoup ne la supportent plus maintenant. Beaucoup, beaucoup. On a la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, des choses agréables. On en est là. On ne supporte plus la saine doctrine. Si nous voulons être agréables à Dieu, il nous faut donc être fidèles à sa parole. J'ai noté une autre référence, Apocalypse 2.10 aussi. Apocalypse 2.10, qu'est-ce qu'il est dit ? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. La fidélité même jusqu'à la mort. Mais le Seigneur récompensera. Il est là, il récompensera tous ceux qui sont restés fidèles. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Même si le diable en jette quelques-uns en prison pour nous éprouver, le Seigneur, lui, il contrôle tout ça. Et il est le maître. Ce qu'il attend de nous, c'est notre fidélité à sa parole. Ne renions point sa parole, sinon un jour il nous reniera aussi. Il nous reniera. Donc, nous pouvons bien commencer et mal finir. Il nous faut donc faire attention de bien commencer et aussi de bien finir. Et dire au Seigneur, jusqu'à la mort, je vais te suivre. Et là-haut, la récompense sera là. Et nous serons heureux d'avoir été jusqu'au bout avec lui. Que le Seigneur ainsi nous donne de franchir ces étapes et que rien ne nous arrête. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Et ça, c'est la grande tribulation. La grande tribulation vient. Et avant cela, il y a l'Église qui va être enlevée. Et le Seigneur va nous préserver de ces tribulations terribles qui vont venir sur la terre pour juger le monde et tous les impies de ce monde. Et le Seigneur veut nous protéger de ce jugement qui sera terrible. Dans son amour, il veillera à ce que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces.
Oui.
Alléluia.
C'est vrai.
Ainsi, soyons fidèles à Christ. Mm-hmm. Et il nous attend là-haut, mm-hmm, pour nous donner ce dont nous avons besoin, la couronne de la fidélité à son nom et à son évangile. Que le Seigneur soit béni et que nous soyons tous des chrétiens victorieux, qui franchissent ces étapes et qui cherchent à plaire à leur Sauveur par-dessus tout et avant tout. Il revient bientôt, soyons fidèles. Il revient, soyons fidèles, soyons prêts, soyons courageux. Et le Seigneur sera avec nous. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis.
Non,
il est toujours près de ses brebis. Si tu souffres, il sera avec toi.
Amen.
Il sera avec toi. Mm-hmm. Tu goûteras sa consolation.
Amen.
Tu goûteras sa paix.
Amen.
Si tous te rejettent, lui ne te rejettera point.
Non.
Il sera là. Tu en feras l'expérience magnifique.
Mm-hmm.
Dans ta solitude, tu expérimenteras la présence douce et consolatrice de ton berger.
Amen.
Bon
Amen.
Berger. Sa houlette Amen. Et son bâton te rassurera.
Mm-hmm.
Que le nom du Seigneur soit béni.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Merci Seigneur.
Amen.
Pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci Seigneur de ce que tu nous attends là-haut et tu nous dis bon courage.
Oui.
Je viens bientôt.
Amen.
L'orage va venir dans ce monde. La tempête va gronder. Le jugement descend. Mais moi je veux vous en préserver. Je veux vous prendre avec moi. Mais pour cela soyez fidèles jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Ne me reniez point, soyez fidèles. Et je vous introduirai là-haut, chez moi là-haut, pour contempler les gloires célestes.
Amen.
Nous voici Seigneur.
Merci.
Prends-nous et façonne-nous à ton image et garde-nous fidèles jusqu'au bout pour ta seule gloire.
Amen.
Amen.
Amen Seigneur.
Merci
Amen,
Seigneur.
Seigneur.
Alléluia.
Le Seigneur m'a montré que
merci,
qu'il y a ici une personne qui se sent comme ballottée dans les circonstances dans lesquelles elle vit.
Alléluia.
Tu souffres parce que tu passes d'une incertitude à l'autre. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te débats. Le Seigneur le voit. Et il te dit, mon enfant, parfois tu te bats avec tes propres pensées. Et en faisant ainsi, tu n'es pas en mesure de voir le miracle de ma sagesse et de ma puissance. Il est important pour toi d'arriver au bout de tes propres forces, comme quelqu'un qui serait tellement épuisé qu'il chercherait son propre souffle. C'est dans cet état de dépendance que je veux que tu sois. Dépendance de moi, car c'est dans cette vallée des difficultés qu'émergeront les montagnes de ta foi. Les leçons que tu apprends dans cette vallée t'aideront à parvenir au succès, et si tu serres ces leçons sur ton cœur, tu auras vite fait de réaliser que cette vallée et ces problèmes dans lesquels tu te trouves étaient exactement ce dont tu avais besoin. Une fois arrivé sur la montagne de la foi, tu me remercieras de t'avoir fait passer par là. Tu comprendras alors qu'au travers de cette souffrance, j'aurai affermi ton cœur et tu en seras heureuse, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de bénir cette personne qui passe par des difficultés, des souffrances.
Oui, Seigneur.
Qui l'ébranle, qui la rende chancelante. Seigneur, merci. Tu viens la rassurer, lui dire que tu t'occupes d'elle.
Amen.
Et que dans cette vallée par laquelle elle passe, tu es là, tu es son berger et tu ne la laisseras pas.
Amen.
Tu ne l'abandonneras pas.
Merci,
Seigneur, sois béni pour cette personne que tu consoles
Alléluia.
Ce soir au milieu de nous.
Amen.
Tu es notre berger. Merci, tu connais, Seigneur. Tu sais tout ce qui se passe.
Alléluia.
Tu sais quand nous nous levons, quand nous nous asseyons,
oui,
quand nous nous couchons.
Vrai,
tu sais tout ce que nous disons, ce que nous pensons,
Amen.
Ce que nous ne disons pas aussi. Seigneur, tu sais toutes choses.
Oui, Seigneur.
Nous ne pouvons rien te cacher, mais tu ne nous rejettes pas.
Alléluia.
Jamais. Tu es un Père pour nous.
Merci,
et nous voulons te remercier pour ta compassion à notre égard.
Amen, amen, amen.
Et il y a aussi
merci.
Une personne ici qui a une profonde blessure au fond de son cœur. Et le Seigneur t'encourage ce soir et te dit, mon enfant, comme j'ai compté le nombre des étoiles dans le ciel et que je leur ai donné un nom à chacune d'entre elles, ainsi j'ai aussi compté, écoute bien cela, j'ai aussi compté le nombre de tes blessures, des blessures de ton cœur. Et je connais la douleur de chacune d'entre elles. Je suis celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et je pense leurs blessures. Me voici, te dit le Seigneur, à tes côtés, pour te reconstruire, te fortifier. Ne compte pas sur tes propres forces pour t'en sortir, mais livre-moi ta vie entièrement, et j'aplanirai moi-même ton sentier,
Amen.
Te dit le Seigneur.
Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier, parce que tu n'oublies personne.
Oui, Seigneur.
Tu es le bon berger
Alléluia.
Des brebis. Merci pour tout ce que tu nous as dit
Merci,
ce
Seigneur.
Soir. Merci de préciser ce qui ne va pas dans notre
Merci,
vie.
Seigneur.
C'est encore par amour que tu mets le doigt sur une plaie.
Amen.
C'est parce que tu veux nous guérir de ce mal. Seigneur, sois loué, sois
Merci,
béni.
Seigneur.
Tu es un Dieu compatissant.
Alléluia.
Seigneur, plein de bonté. Jamais tu ne nous délaisses quand nous sommes tes brebis.
Amen.
Et ces deux personnes sont chrétiennes ici, dont je viens de parler. Donc, Seigneur, merci,
merci
de bénir
Seigneur.
Ces deux personnes
Alléluia.
Et de les consoler profondément, parce que ton esprit est un esprit de consolation.
Amen.
Merci de ce qu'il est là ce soir
merci.
Et de ce qu'il agit en profondeur, là où aucun être humain
merci.
Ne peut rien faire.
Seigneur.
Il n'y a que toi qui merci. Peux consoler profondément quand nous passons par l'épreuve.
Amen.
Merci, Seigneur.
Amen.
Merci. Sois béni. Sois
Alléluia.
Merci pour tout ce que tu as fait tous ces jours ici.
Merci, Seigneur.
Dans la région de Québec, Seigneur,
merci,
tu as
Seigneur.
Agi, tu t'es manifesté, tu as guéri,
merci,
tu as consolé, tu as encouragé, tu as
merci,
changé des vies.
Seigneur,
sois loué, sois béni pour ta présence au milieu de nous.
Amen.
C'est à toi que nous voulons donner toute la gloire.
Amen. Amen.
Merci d'avoir passé au milieu de nous.
Merci,
merci de nous aimer d'un tel amour
merci,
qui nous dépasse infiniment. Sois béni, nous t'adorons, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ.
Amen.
Sois adoré, loué, béni.
Amen. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Nous allons chanter ce petit cœur pour
mon
terminer.
Mon cœur
est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli. Car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur
est rempli de joie, de bonheur.
Oui, ma sœur.
Merci, Seigneur.
Le Seigneur s'occupe de ta situation. Il veut te dire qu'il s'occupe de ta situation.
Merci, Seigneur.
Il comprend ta situation. Il t'aime.
Merci, Seigneur.
Il veut changer ta vie. Allez.